Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Dans les caractéristiques du capitalisme, il faut faire entrer le détournement. Je ne sais pas auquel vous pensez en premier, mais je suis certaine qu'il vous en est venu un exemple tout de suite. Avez-vous pensé à détournement de fonds? C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais ils ne sont pas l'apanage du capitalisme. Détournement de mineurs? L'expression semble presque désuète, tant c'est celle de pédophilie qui l'a remplacée. Et détourner des mineurs n'est pas non plus propre au capitalisme. Détournement d'avions? Bon, on le lirait plus immédiatement au terrorisme, et si celui-ci n'est pas étranger à celui-là, l'histoire de leur relation mériterait qu'on s'y attarde davantage avant de conclure que c'est l'un qui provoqua l'autre. Sans doute serait-il plus juste de dire que le capitalisme n'hésita jamais à employer la terreur pour s'imposer. Mais le détournement que je voudrais faire apparaître dans cette chronique, sans n'avoir aucun lien avec les précédents, a pourtant des caractéristiques différentes. Si, dans sa quête toujours plus grande de profit et dans son refus de toute perte, le néolibéralisme a fait de la récupération une obsession, le détournement est son principe structurel et les détournements de fonds ne sont que la face plus ou moins quantifiable de sa nature foncièrement trompeuse. On s'accorde généralement pour dire que les premières croisades, datant du XIe siècle, signent la naissance du capitalisme. Au prétexte de christianiser le monde, les croisés avaient, avant tout, pour mission de connaître et de s'emparer des routes commerciales utilisées par les musulmans. Mutatis mutandis, les guerres actuelles ne sont pas d'une essence différente. Il s'agit, au nom d'une démocratie d'ailleurs bien dévoyée, d'imposer au reste du monde et un modèle culturel, et surtout l'exploitation des ressources en pétrole ou autres lithium lorsqu'il ne s'agit pas d'asseoir sa puissance dans des zones stratégiques, l'un n'excluant nullement l'autre. L'actualité en témoigne. Que ces pillages se fassent au nom de la démocratie est loin d'être sans conséquence. Chacun a en tête un mensonge qu'a utilisé l'Occident pour imposer son pouvoir. Et si la démocratie, aux mains des puissants, n'est plus qu'un nom, ce nom est désormais ensanglanté. Si la démocratie, instrumentalisé par cupidité, n'est plus qu'un nom. Ce nom est sali. Pire encore, de l'avoir ainsi instrumentalisé, voici qu'on l'a rendu suspecte et indésirable pour le plus grand bénéfice de tous les ennemis des peuples, tous fanatiques du pouvoir, tous contempteurs de nos libertés, tous détestant l'altérité. Le pouvoir capitaliste s'est imposé par le détournement des hommes, des femmes et des enfants d'Afrique lors de la traite esclavagiste, par le détournement des richesses lors des colonisations ou par le détournement de l'insecticide Zyklon B pour assassiner des millions de juifs dans les camps de concentration. Les déportations de populations sont une des manifestations les plus barbares d'un pouvoir qui se structure autour du détournement même. Colonialisme, nazisme et néolibéralisme sont les différents visages qu'a pris le capitalisme au fil de ces années. Visages différents selon les époques, selon ses besoins ou plutôt ses appétits. Visages cyniques et largement maquillés en orange ou en brun. Et plus massivement encore, maquillage discret d'une bourgeoisie qui se définit comme haute, convaincue de sa supériorité morale et culturelle, consciente surtout de détenir une part de plus en plus indécemment gigantesque des richesses mondiales. Oui. Il faut beaucoup d'or pour recouvrir tout ce sang. Beaucoup d'or, mais comme on y tient comme Harpagon à sa cassette, on a, et depuis longtemps, et avec de plus en plus d'habileté, trouvé une autre monnaie. Cette monnaie, c'est le langage. Que commettre des génocides, déporter et exterminer des peuples entiers, dérober des richesses et détourner le sens des idées et des mots soient des exactions différentes, n'empêche pas qu'elles soient de même essence. Plus encore, elles ne fonctionnent pas et n'ont jamais fonctionné indépendamment. Aucun génocide n'est commis sans manipulation du langage. Mais lorsque c'est le langage lui-même qui devient la fausse monnaie dont on paye ses crimes, le peuple qu'on extermine, c'est le peuple humain. Les colons, massacrés au nom de la civilisation contre ceux qui n'étaient pas de sang pur. Les nazis reprirent et systématisèrent l'extermination des juifs, tziganes, homosexuels et tout opposant au nom de la pureté. Colons et nazis ont préparé le terrain d'un néolibéralisme sans foi ni loi, dernier avatar d'un capitalisme qui s'est toujours imposé par un terrorisme plus ou moins repérable. Le détournement du langage est la forme la plus insidieuse et la plus ravageuse de ce terrorisme. Au fronton des camps de concentration, on osa inscrire que le travail rendait libre, manifestant ainsi et le mépris intemporel du capital pour le travail et la haine viscérale des totalitarismes à l'encontre de la liberté. Et enfin, l'impudence sans scrupule des puissants qui écument de rage de ne pas pouvoir confisquer totalement la parole. Le pouvoir abhorre la parole parce qu'elle est l'arme de tous ceux qui n'en ont pas d'autre. Le pouvoir abhorre la parole parce que le langage est, par nature, résistant au totalitarisme pour une raison que chacun peut expérimenter par lui-même, à savoir que plus il permet de s'approcher du sens d'un mot et plus la chose semble s'éloigner. C'est cette ambivalence essentielle qui donne au langage sa liberté. Ce sont les malentendus inévitables qui nous font parler encore et encore, tentant de les réduire et constatant qu'au lieu de se simplifier, les choses se complexifient. N'importe quelle dispute en témoigne. Le sens échappe et nul n'est le maître du langage. C'est en explorant cette aporie que les poètes d'abord et certains psychanalystes beaucoup plus tard ont cherché un chemin possible vers une singulière liberté subjective. À l'autre bout du spectre, dévoyant cette recherche, les puissants, qui ne sont pas tous des imbéciles, se sont intéressés, ô combien, à ce pouvoir du langage qui toujours leur échappe. En occupant les plus hautes fonctions de la parole, en devenant propriétaires des médias par lesquels elle se propage, en rendant de plus en plus difficile l'accès à une culture alternative, en générant une sous-culture du spectacle et du divertissement qui hypnotise au lieu d'éveiller, en saccageant les possibilités d'une éducation juste et égalitaire de l'esprit critique, les dominants font l'exact inverse de ce que tentent non seulement les artistes, mais tous ceux qui luttent, parfois à leur corps défendant, non pas pour libérer la parole, mais pour célébrer joyeusement sa liberté. Car nos corps ne sont pas faits d'or ou de dollars, mais de mots, de poésie, de déclarations d'amour et parfois de haine. Nos corps sont nos chairs, modelés tant par les langues que nous parlons que par celles qui nous parlent. Mots hérités de nos histoires collectives et personnelles, mots durs qui ont blessé ou doux qui ont consolé, mots anciens que nous revivifions, mots venus d'ailleurs qui témoignent de toutes les rencontres. Nous sommes les mots que nous mangeons et ceux qui nous mangent et nous démangent, tant il est vrai que le langage est le poil à gratter de nos fatuités. Toujours il nous désarçonne, toujours il nous surprend, toujours il nous détourne, faisant à la faveur d'un mot, jaillir une idée nouvelle, une sensation inattendue, un souvenir, un autre mot qui révèle, en apparaissant, tout ce que nous disions sans le savoir. Et cette richesse que les psychanalystes appellent l'inconscient n'appartient à personne. Seuls ceux qui redoutent sa puissance qui vient affaiblir la leur, seuls ceux dont la puissance précaire s'est construite à coups de mensonges et plus encore de déni, seuls ceux qui ne peuvent trouver leur puissance qu'à nier celle de tout autre et construire un semblant d'identité en refusant toute altérité, seuls tous ceux-là qui veulent que rien n'échappe à leur colonisation se croient et se veulent les maîtres du langage. Ces experts du détournement, il existe un mot pour les définir, un mot dont l'étymologie, justement, dit la jouissance à tout détourner. L'impossibilité pathologique à faire autrement que toujours tout retourner, qu'il s'agisse de retourner son impuissance dans l'autre, de retourner l'esprit de ses interlocuteurs par des arguments qui glissent entre les doigts, de retourner le bien en mal et le mal en bien, le vrai en faux et le faux en vrai, de sorte qu'on ne puisse plus s'y retrouver. Ces experts du détournement, qu'ils détournent des mineurs, des idées ou des fonds pour assouvir leurs pulsions, qu'ils détournent et déportent des populations, qu'ils détournent le langage pour se donner une illusion de maîtrise, c'est ce qu'on appelle des pervers.